Monsieur le député, merci d'intervenir dans le cadre de ces rencontres des acteurs publics sur ces enjeux d'urgence, d'état d'urgence. Quel est votre sentiment? Est-ce que l'action publique est suffisamment acculturée à la gestion du risque?
Je pense qu'elle doit encore davantage s'acculturer. Évidemment, ce qui s'est passé au cours des presque deux ans a eu des incidences très, très fortes sur l'augmentation de la réactivité du secteur public. Mais je pense qu'il y a encore des démarches de progression indéniables dans la mesure où le premier réflexe, c'est de celui, y compris de fonctionnaires d'autorité, qui est celui de dire « attention, quelle va être ma responsabilité ?» Et il faut évidemment là aussi faire en sorte qu'il y ait un réflexe qui soit automatique de plus grande prise de risque. Mais on voit bien que je trouve qu'au cours de cette crise, on a pu voir qu'au fil du temps, les choses se sont aussi améliorées, dans la mesure où un certain nombre de décideurs publics se sont rendus compte que le fait de prendre des risques avait du sens, parce que ça permettait de résoudre plus rapidement un certain nombre de situations.
Gestion des crises, gestion des risques, l'action publique en mode gestion de crise. Est-ce qu'il y a encore un distinguo entre gestion de crise et gestion du quotidien, entre guillemets, quand on passe d'une crise sanitaire, crise financière, crise climatique, crise terroriste, les crises se succèdent. Est-ce qu'il faut encore penser, faire un distinguo, gestion du risque, gestion de crise et gestion du quotidien? Est-ce que ça a encore un sens?
Alors, je pense qu'il faut tout de même encore maintenir un distinguo dans la mesure où la crise nécessite à un moment donné un certain type d'intensité qui est lié, là on le voit par exemple lorsqu'on est au plus haut d'une pandémie, eh bien on voit bien qu'il y a des décisions très particulières à prendre, il faut être en mode quasi commando. Je n'imagine pas qu'on soit en permanence en mode commando, pour une raison toute simple, c'est que sinon vous épuisez vos ressources humaines, et vous avez évidemment aussi besoin de faire en sorte que celles et ceux qui s'investissent au quotidien prennent des responsabilités lourdes, puissent aussi à un moment donné évidemment se reposer, parce que cette intensité elle est très énergivore pour celles et ceux qui sont en première ligne.
Sur la gestion des risques, la gestion de crise, on a vu beaucoup l'exécutif. Le Parlement a-t-il été suffisamment associé? Que peut le Parlement?
Alors, pour répondre vraiment ex abrupto et de manière très claire, le Parlement n'a pas suffisamment été associé. Mais je pense que c'est aussi lié à la culture de l'exécutif qui avait tendance à considérer c'est nous qui sommes responsables et donc c'est à nous de décider. Et je pense que du coup, nous sommes passés à côté de quelque chose où l'on aurait davantage pu tirer profit du débat parlementaire. Ça n'a pas été le cas. Je trouve ça un petit peu dommage. Et il faut bien dire que la décision prise par le président de la République lui-même, consistant à dire que les décisions ayant trait à la crise sanitaire seraient traitées dans un conseil de défense, compliquait la donne. Et d'ailleurs, ça peut paraître anecdotique, mais nous n'en avons pas tiré toutes les conséquences. Et quand je dis nous n'en avons pas tiré toutes les conséquences, c'est y compris ici au Parlement, parce que si nous fonctionnons par parallélisme, je voudrais rappeler que lorsque la France était en guerre, et je pense plus particulièrement à la Première Guerre mondiale, pendant que le gouvernement prenait des décisions, parallèlement, il rendait compte de ce qu'il prenait comme décision ayant trait à la guerre ici au Parlement. Et il y a un outil qui existe, qui est d'ailleurs prévu dans notre règlement, qui s'appelle les comités secrets. Et vous noterez que nous aurions pu, ne serait-ce qu'utiliser cet outil-là pour aller un petit peu plus loin, tout en garantissant la confidentialité d'un certain nombre d'informations, parce que le dispositif le permet. Et je suis de ce point de vue-là, il faut le dire, un peu amer, parce que je trouve que en un siècle, nous nous rendons compte que la démocratie parlementaire, il y a un siècle, au moment de la guerre de 14, fonctionnait de manière plus forte qu'elle n'a fonctionné aujourd'hui. Et cela doit nous interroger, parce que, encore une fois, je ne pense pas que l'intensité qui était celle de la guerre de 14-18 eût été moindre par rapport à ce que nous avons connu avec, avec la pandémie.
Alors, dites-moi si je résume bien votre propos, la crise sanitaire a entraîné, telle qu'elle a été gérée, un recul de la démocratie parlementaire.
Je le dis clairement, je pense qu'il y a eu un recul de la démocratie parlementaire, en partie aussi parce que le groupe majoritaire n'a pas laissé place à cette démocratie parlementaire. Alors, je ne veux pas ici faire de l'introspection pour essayer de comprendre à quoi cela peut être dû, même si j'ai quelques idées. Je pense qu'ils ont été traumatisés par des affaires un peu plus anciennes au moment de l'affaire Benalla, où évidemment, le gouvernement a été fortement chahuté. Je pense que collectivement, nous étions en mesure, y compris les oppositions, d'être responsables par rapport à cette crise sanitaire, mais traiter cela de manière un petit peu différente, parce que nous avons constaté que nos recommandations étaient quand même très largement balayées. Je vais vous donner un exemple très précis. Nous sommes début du mois d'octobre. Voyez-vous, en commission, nous allons traiter d'un projet qui va arriver, qui est celui de la vigilance sanitaire, et donc, en quelque sorte, de la possible extension, prolongation de l'état d'urgence sanitaire au-delà du 15 novembre, eh bien, quand vous regardez ce que nous annonce pour le moment le gouvernement, ils veulent, à travers le texte qui nous est proposé, ex ante, enjamber, y compris les élections présidentielles, en disant « mais l'Assemblée nationale, à partir de février, ne siégera pas ». Pardonnez-moi, nous sommes les uns et les autres des gens responsables. On peut parfaitement, avec une session extraordinaire, nous réunir à tout moment si cette question devait se poser. Et donc, vous voyez, le fait de ne pas faire confiance à l'institution parlementaire et finalement, à travers ce genre de mécanisme, d'être un peu dans de la défiance, enfin, de l'exécutif vis-à-vis du pouvoir parlementaire, je pense que oui, ça n'est pas bon signe.
Dernière question, monsieur le député, sur ces problématiques-là, on le dit, beaucoup se joue au niveau de l'exécutif, en centrale, en administration centrale. N'a-t-on pas un peu sous-estimé la force, l'impact, le rôle des territoires, des acteurs territoriaux ?
Ça ne fait aucun doute qu'on a sous-estimer le rôle des acteurs territoriaux. Je vais vous prendre un exemple que j'ai vécu. Quand le gouvernement a décidé de se lancer dans la grande campagne de vaccination, eh bien, le premier réflexe dans mon département a été de dire nous avons un raisonnement en termes de population, il y a 1,2 million d'habitants, donc un centre de vaccination pour 120 000 habitants. Très bien, mais c'était complètement passé à côté d'une autre dimension, qui est la dimension, cette fois-ci, densité en termes d'habitants sur un territoire. Et donc, ma circonscription est une circonscription extrêmement rurale, et donc je me suis rendu compte que avec une telle décision, avec une implantation sur ma circonscription, eh bien, il y a des concitoyens qui devaient parcourir 60 km pour atteindre un centre de vaccination. Et donc, je suis intervenu en disant « Attention, dans les territoires ruraux, il faut aller plus près de la population si vous voulez avoir une efficacité de la politique publique vaccinale. » Et donc, à partir de là, avec les présidents d'intercommunalité et des médecins de terrain, nous avons fait des propositions pour accueillir dans des délais extrêmement courts, évidemment, des centres de vaccination. Donc là, c'est un premier exemple. Mais je pourrais les démultiplier. Si vous m'y autorisez, je vais prendre un deuxième exemple qui est celui que nous avons vécu, il faut le dire, beaucoup plus tôt dans la crise sanitaire. L'Alsace, je ne vous apprends rien, a été fortement touchée puisqu'il y avait ce cluster du côté de Mulhouse, et nous avons vu évidemment, hélas, la pandémie se répandre territorialement sur notre territoire, et par voie de conséquence, la pression hospitalière a au fil des jours fortement augmenté. Mulhouse, puis l'hôpital de Colmar également sous saturation. Ensuite, ça a été le tour du CHU de Strasbourg, et puis enfin les hôpitaux aussi en périphérie immédiate, Haguenau d'une part, Saverne d'autre part. Et à un moment donné, la tension était telle que l'agence régionale de santé, dont le siège aujourd'hui est tout de même assez éloigné, puisqu'il est à Nancy, en Lorraine, et à l'époque d'ailleurs avec un directeur général qui prenait les décisions depuis Paris, puisqu'il n'était même pas sur place au moment de ces prises de décision, eh bien, à un moment donné, il a été décidé d'envoyer des patients qu'il était possible encore de transporter, par exemple à Bordeaux, donc à 700 km de Strasbourg, alors que vous prenez une carte et vous avez un raisonnement très opérationnel. Nous avions chez nos voisins allemands, à 50 km de là, des hôpitaux qui n'étaient pas sous tension. Et donc, il a fallu là aussi intervenir. Nous l'avons fait, les élus, nous sommes intervenus notamment auprès du ministère de la Santé pour que celui-ci puisse se coordonner avec son homologue allemand, de telle sorte que les hôpitaux allemands puissent accueillir là aussi des patients, ce qui a été fait une fois que le déblocage était intervenu. En l'espace de 8 jours, 50 patients ont pu être hospitalisés à 50 km de chez eux, ce qui est quand même mieux que de se retrouver à 700 km de chez soi.
C'est ma dernière question, monsieur le député. Donc, beaucoup d'enseignements à tirer de cette séquence.
Oui, de toute évidence, beaucoup d'enseignements. En même temps, je voudrais terminer sur une note d'espoir, c'est-à-dire que j'ai évidemment émis un certain nombre de critiques en disant que la démocratie parlementaire n'a pas forcément été gagnante. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y a là aussi une énergie extrêmement positive qui a été déployée, notamment par les acteurs en territoire, c'est-à-dire les maires, les présidents d'intercommunalités, les présidents de collectivités territoriales. Je crois que cette intelligence collective, il faut que l'État puisse davantage, là aussi, la considérer comme telle, simplement peut-être la considérer et l'inclure dans un processus de codécision, plutôt que d'être dans une vision strictement, pardonnez-moi de cet anglicisme, top-down, où en réalité, tout est décidé au ministère de la Santé à Paris, relativement loin de la réalité quotidienne d'un certain nombre de nos concitoyens.
Merci, monsieur le député, pour ce témoignage. Merci d'être intervenu dans le cadre de nos rencontres des acteurs publics en lien, en partenariat avec le Conseil d'État.
Merci à vous.